des visages de l'Algérie, traverser ses couleurs, raconter ses légendes, ses dents, des villes et des histoires. Des villes et des histoires, une émission produite par Melika Lafer, réalisée par Saïd Boutelfa.
À la fois millénaire et moderne, la cité de Bonjour-Madris plonge ses racines dans un passé glorieux mais connu. Cette émission se veut une passerelle tendue entre les auditeurs en quête de dépaysement et cette région encore peu connue du pays, qui recèle encore des trésors ignorés, tant sur le plan historique et touristique que sur le plan économique, tout en ayant su préserver sa diversité culturelle et sa dimension légendaire. À moins de 2000 km d'Alger, le visiteur est transporté dans un monde à nul autre pareil que Tassili Najjar. Bonjour-Madris porte le nom du Shahid Omadris, qui a longtemps défié les forces coloniales. Il est né en 1931. Il fut exécuté le 6 juin 1959 dans la région d'El Jawez, à Jalfa. Plus qu'une escale touristique, le Tassili emporte le visiteur vers des époques lointaines, à l'ère où seule la pierre régnait sur ces terres arides et hautes, il y a 7 à 8 000 ans, l'homme dessiné sur les parois des grottes lui servant de refuge, des peintures troublantes pour l'homme moderne, les rites rythmant l'univers de cet artiste primitif, auteur de ces magnifiques tableaux gravés dans la pierre, défile devant les yeux ébahis de l'aventurier des temps modernes, qui, loin d'avoir tout découvert sur les 60 000 peintures, décrivant avec finesse et exactitude la nature et la beauté des lieux, voit soudain surgir un monde oublié, peuplé d'animaux mythiques, d'arbres et de végétation luxuriante. Un monde de rites ancestraux de chasse et d'agriculture, une véritable mise en scène de la vie primitive d'avant, l'ère de la modernisation, dont nous avons beaucoup parlé au cours de nos précédentes émissions. Au cœur du Tassili, à environ 750 km de la ville d'Ilizi et à 500 km de la Daïra d'Aïn Amenas, se situe la ville de Timassinin. Timassinin est un mot d'origine targhi qui signifie littéralement « zone de transit ». En effet, les caravanes de pèlerins en provenance de Gadames en Libye, de Ain Salah ou de Tombouctou, se rencontraient autrefois en un lieu appelé Tinrert, autre mot targhi signifiant « passage » au milieu de la montagne. De par sa situation géographique particulière, la région a donné naissance à un mouvement de résistance puissant mené par les tribus targhi, les Ifouras, Iman Hassan. En effet, en raison de l'importance de la situation géostratégique de la région, la ville fut choisie comme porte de contrôle et de surveillance durant la colonisation. On y édifia un fort plus connu sous le nom de Fort Flatters, du nom du commandant français Flatters, qui fut tué par les Targhi lors d'une expédition dans la région de Timassinin en 1881. Signalons que les forces françaises se sont attelées dès 1893 à édifier des forts et des casernes militaires au cœur du désert. Fatima Sinin est aussi connue sous le nom de Zawiya El Kahla ou Zawiya Sidi Moussa Boukabrine. En effet, la ville abrite le tombeau d'un marabout targué de la région dont l'étrange parcours mérite le détour. Quant à l'appellation Boukabrine, autrement dit, celui qui a deux tombeaux, l'histoire qui y est attachée est sans doute une légende que les habitants de la région se plaisent à se transmettre de père en fils. Chaque année, à l'occasion du pèlerinage au tombeau de Sidi Moussa, est organisé un festival en hommage au saint homme. La Wada permet aux habitants de la région de se retrouver et de renouer contact. C'est aussi l'occasion d'éprouver l'hospitalité et la chaleur de l'accueil réservé par les habitants aux étrangers de passage. Tôt le matin, les pèlerins se réveillent pour effectuer la prière d'Al-Fajr. Les hommes sacrifient les bêtes préparées pour l'occasion, tandis que les femmes s'affairent à préparer le couscous, en attendant que la viande leur soit rapportée par les hommes pour achever la préparation du repas. Chaque maison est alors prête à accueillir et offrir l'hospitalité à quiconque frappe à sa porte. Après avoir mangé, tous lisent la Fatiha en priant pour l'âme du saint homme et en rendant grâce à Dieu pour ses bienfaits.
À 500 km donc du chef-lieu de la ville d'Ilizi, plus précisément à Borj Oumar Driss, se trouve donc la Zawiya de Sidi Moussa. Nous avons un adepte qui est monsieur Al-Farki Laïd, un adepte donc de la Zawiya, dont la tariqa est la Tijaniya. Alors monsieur Al-Farki Laïd, merci donc d'avoir répondu donc à notre invitation. On parle de ce fort de la compagnie Flatters qui a été édifié en 1904. Qu'est-ce qu'on vous a raconté sur cette histoire ?
على كل حال انا واش سمعت معناها لو كونستروي من نفس من نفس انكات دبرج مدريس هنا.
Selon mes informations et ce que je sais, le fort Flatters a été construit en 1904 et en 1907 il y a eu une attaque contre ce fort de la part de Touareg originaire du Tanezrouf à 45 km de Borj Oumar Idriss.
Donc il y a eu des batailles avec les Touaregs ont combattu la compagnie Flatters.
لكل حال انا واش سمعت معنا كاينه مواجهه بينهم وبين التوارك في تنزروف.
Donc effectivement il y a eu disons un accrochage les Touaregs qui venaient du Tanezrouf à 45 km d'ici les ont attaqués, ont rasié, donc ils ont pris les armes, probablement les munitions, les provisions et aussi leur monture. Au lieu d'Im Darba.
المهم اشتباك نتاعهم ماهوش قضوا عليهم نهائيا معنا نحوا من الغنيمه نتاعهم وتكسروا ورجعوا لا رجعوا فلاتيس رجعوا لهنا البرج والجماعه هذوك راحوا.
Donc après cette disons cette attaque des Touareg donc du Tanezrouf, quelques temps plus tard les survivants ils ont été évacués vers une autre wilaya.
وندوهم بعد هذوك اللي كانوا هنا رحلوا الشعب نتاع هنا رحلوهم هنا داهو.
Donc les Touareg de la région ont évacué les populations pour éviter les représailles de l'armée coloniale envers ces populations civiles.
Aujourd'hui, le Borj Flatters existe toujours. Est-ce qu'il représente une page d'histoire ?
Le Borj هذا معنا محطوط كمعنا كإطار كإطار معنا مستحفظين به
Le fort flatter existe encore. Pendant un moment, il servait de prison. Maintenant, bon, il y a un gardien. Donc, le lieu, le site existe encore jusqu'à aujourd'hui, comme témoin colonial dans la région.
على كل حال البرج هذا مع محطة التاريخ مع على كل حال بقي قاعد معنا مكيم قديمة معنا.
Le fort flatter est toujours, disons, en état. Il représente aussi, il est préservé pour aussi témoigner de la présence coloniale dans la région.
Alors le fait qu'il عيد, vous êtes un membre donc de la Zawiya de Sidi Moussa. Vous nous avez dit hors antenne que en 1962, on vous a raconté déjà que Sidi Moussa était venu donc de Zahir al-Habra et qu'il aurait déjà 5 siècles.
Selon nos informations, ce savant était un des derniers savants qui avait été formé en 1613 au niveau de la célèbre Zawiya, Zawiyat Kunta.
Comment il a atterri ici ?
وسمعنا هنا نهار اللي معنا راح بيو للحج الفقي كان يقرأ في الجامعة.
Alors on raconte que l'origine de la présence du Cheikh ici dans la région, c'est que son père, comme il devait partir à la Mecque, faire le pèlerinage à la Mecque, il a laissé son enfant, donc le Cheikh dont on parle aujourd'hui, dans la région d'Aoulef, chez un talib pour qu'il apprenne les sciences coraniques, etc. Donc son père a continué donc son pèlerinage à la Mecque, et au bout de quelques temps, son instituteur, disons, son professeur l'avait frappé. Donc l'enfant s'est sauvé dans le désert. Il était assez jeune et il est resté très longtemps, une très longue période, vivant entre les autruches et les gazelles. Un jour, des nomades qui faisaient la route ont remarqué sur le sol des traces d'une présence humaine parmi les empreintes d'autruches et de gazelles. Donc ils ont essayé de le pister, de le retrouver. Et au moment où ils l'ont retrouvé, comme il avait probablement perdu le contact avec les humains, il a subi un choc et il est mort. Donc suite à cette capture, il est mort. Ils l'ont ramené, ils l'ont enterré. Et son père, qui était à la Mecque, a fait un rêve où il voyait son enfant à l'ombre et lui à la lumière. Donc il a envoyé des émissaires vers la région d'Aoulef, leur disant de déterrer mon enfant et de l'enterrer ailleurs. Bon, ils ont demandé, mais où on va l'enterrer ? Et le père du jeune enfant leur a dit, vous le mettez sur le chameau. Au moment où le chameau s'arrête, c'est là que vous devez l'enterrer. Et c'est ainsi que le Darer qui se trouve actuellement à Borj Omar Deris est le sanctuaire du Wadi Salah qui se trouve dans la région.
Donc si nous avons bien compris, il n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Jeune garçon qui était frappé de sainteté.
Atoumay hoba min Allah, ma'ana salih, ma'ana hali l'qadiyya li sabbat lu l'midan had. Fahna manajoumch ndakhlu fi
l'tafsil. Comme nous n'avons pas tous les détails, mais ce que l'on sait, c'est qu'il était quand même empreint de sainteté et que même son père descendait d'une filiation de shérif. Donc c'est selon la tradition populaire et ce que nous avons pu reconstituer, ce que nous connaissons de ce wali.
Ce wali n'a pas de descendance, il n'a pas eu d'enfant, il est mort jeune, on a compris qu'il était enterré deux fois. Et pourtant, la Zawiya existe aujourd'hui depuis plus de 5 siècles. Et comment s'est faite la succession ?
Donc après cet événement, disons miraculeux, les anciens, les sages de la région ont décidé de commémorer cet événement et d'essayer d'activer dans le cadre des activités habituelles des Zawiya du sud algérien.
Et ici, c'est la Tariqa Tijaniya.
Effectivement, actuellement, la Zawiya est d'obédience Tijani.
Cheikh, merci. Merci beaucoup pour votre présence et votre histoire aussi.
حاجة كبيرة، حنا نعتبروها معنا هذه كنا في الحفرة واليوم تهزينا وطلينا فوق.
Nous remercions chaleureusement la radio pour leur présence ici aujourd'hui. Et c'est la première fois, donc, monsieur insiste que c'est la première fois que les médias, disons, viennent dans cette région. Et qu'il dit que nous étions avant dans un trou et que maintenant nous sommes à la lumière. Donc il nous remercie et il considère notre présence comme un honneur pour la population.
Le climat de la commune de Bourg-en-Maldris est typiquement saharien, se caractérisant par un air sec et des températures élevées. La variation de température entre la nuit et le jour est importante. Elle possède un potentiel agricole important. Ses principaux atouts sont la qualité de ses terres cultivables et l'abondance de ses eaux souterraines. La culture maraîchère occupe la première place des activités agricoles de la commune. En effet, elle s'étend sur une superficie de 25 hectares, suivie de la culture céréalière à 21 hectares de terres cultivées et de la culture des palmiers dattiers avec seulement 10 hectares. L'exploitation de ressources terrains de la région en fait un pôle urbain en plein essor de développement. Un nombre important de nouveaux gisements ont été découverts ici à Bourg-en-Maldris, dont le territoire comprend les champs pétrolifères de TFT et Tifo-E. Elle n'est pas la seule à vivre une situation de chômage au milieu de richesses sonnantes et trébuchantes assurées par l'or noir. Et il n'est pas de nos habitudes de visiter des maisons de jeunes, certes. Les visiteurs sont si rares que nous nous sommes fait un plaisir de les rencontrer. Dans une maison de jeunes, ou de jeunes adolescents un peu surpris de notre présence, surpris mais aussi ravis, avec des rêves plein la tête, celui de devenir de grands chanteurs, ayant très peu de moyens, ils traînent, se soutiennent, et à travers la musique, ils transcendent leur mal-être.
Thank you.
de la chanson que nous venons d'écouter. Elle s'appelle comment ? C'est une vieille chanson ou alors une composition à vous ?
La ghania min qadim. Kant ki shghal kima nqolu sha'r qadim.
C'est une chanson, un texte du patrimoine qui a été chanté par des chanteurs connus, mais c'est un texte issu du patrimoine de la région.
Les instruments, ce sont deux guitares électriques avec une percussion qui est maintenant depuis de longues années entrée dans la musique de Touareg.
Effectivement, si dans le répertoire musical traditionnel, on n'utilisait pas des guitares électriques, mais depuis un certain moment, c'est rentré dans le patrimoine au niveau des instruments. Donc on utilise la guitare électrique et d'autres instruments pour la musique targhi.
Youssef, bon, on a compris que c'était des instruments modernes, puisqu'il s'agit de deux guitares électriques et aussi percussionnistes. Est-ce qu'il y a des fois, vous intégrez un peu le tindi ou alors aujourd'hui c'est une musique complètement synthétique?
Le travail que nous effectuons, bon, c'est vrai que on utilise des instruments modernes, mais quand on va vers le traditionnel, selon moi, on évite de mélanger les genres, rester soit tindi ou limzad côté traditionnel, mais pour nous on utilise des instruments modernes en évitant les mélanges.
Vous êtes un groupe, donc c'est dans la maison de jeunes que vous composez, c'est pas votre métier.
Ana fi dar chabab بالنسبه لدار شباب نترينيو برك نترينيو خطر على خطر.
Alors là, en ce qui me concerne, je suis chômeur, donc je n'ai pas de travail, mais dans le cadre des activités de la maison de jeunes, donc nous nous rencontrons avec le reste de mon groupe, où c'est là que nous répétons les morceaux que vous venez d'entendre.
Vous rêvez de devenir chanteur professionnel ?
De tout cœur, j'espère devenir un jour professionnel. Et tout le monde espère un jour devenir professionnel et aller vers d'autres horizons.
Thank you.
Alors Hassan, nous sommes toujours bien sûr à la maison de jeunesse à Borj Omar Idriss. Tu es percussionniste, comme ton copain, tu es chômeur. Qu'est-ce qui te manque? Est-ce que tu as été formé ou alors tout seul tu t'es formé dans la musique?
J'ai déjà formé chez moi-même, quoi, parce qu'il n'y a pas des informateurs ici. Donc toujours je forme avec mes amis, quoi, seul.
Et tu joues que de la percussion et tu joues pas d'autres instruments?
Je joue la batterie, un peu plus, et la tambour.
Bon. Tu as pris tout ça tout seul?
Seul.
Tu es dans la maison de jeunes en Borj Omar Idriss. Et qu'est-ce que tu souhaites quand on ramène un matériel plus perfectionné, qu'est-ce que tu souhaiterais?
Bon, je souhaite pour le groupe une grande évolution dans la musique, évolution. Bon, mais vraiment désolé, je vois rien, quoi, parce que comme vous voyez, quoi, on a un grand problème du matériel et des informateurs aussi.
Tu nous dis tout simplement que tu as besoin de notre matériel. Et qu'est-ce qui manque ici dans la maison de jeunes?
Bon, je vois rien, quoi, comme des instruments. Il y a beaucoup d'instruments qui n'ont pas là, quoi. Il n'y a pas de piano, il n'y a pas de percussion aussi. C'est pour quelqu'un, quoi. C'est pas pour la maison. On a la louée cachée quelque part.
La percussion est de la famille?
Non, c'est pas pour moi-même. Mais c'est pour un jeune. Je suis un batteur. Ça, là, on a loué chez quelqu'un.
Donc Hassan, tu souhaiterais avoir une batterie?
Une batterie nationale même, Inch'Allah, je souhaite.
La batterie s'intégrerait dans la musique targhi?
Bon, ce n'est pas, il n'y en a pas dans, mais quand même...
Tu aimerais l'intégrer?
Oui, je l'aimerais intégrer, voilà. Quand même, Inch'Allah.
Notre guitariste, alors Brahim, toi tu es dans le groupe, tu joues avec eux depuis combien d'années? Tu joues depuis 2003 et comment tu as appris la musique?
J'ai appris la musique sur le tas. On prenait des bidons d'huile ou de conserve avec des câbles de vélo et c'est comme ça qu'on a appris la musique.
Toi, ton souhait, ce serait quoi?
Le sud algérien est considéré comme le désert le plus rude du monde, qui représente presque les 4/5 de l'Algérie. Cependant, nourri par ses richesses, la communauté nationale a hauteur de presque 95% de ses besoins. Depuis 2006, un programme du développement du sud s'est déclenché. L'intérêt accordé à ces vastes espaces, de démultiplier les capacités d'exploitation de ses potentialités, des mesures concrètes et judicieuses sont prises pour orienter les efforts de développement dans ce vaste territoire qui pourra constituer l'Algérie de demain. Ainsi, des méga-projets relevant naguère du mythe vont trouver des possibilités réelles de réalisation. On écoute M. Tifour Walid Ilizi.
Alors Alors, Monsieur Boualem Tifour, Walid Dilizi, merci donc de nous recevoir. Depuis 1984, la wilaya Dilizi occupe une superficie de 284 618 km², soit un neuvième du territoire national. Elle est limitrophe avec trois pays voisins sur une longueur de près de 1100 km. Elle abrite le plus grand musée préhistorique à ciel ouvert. Vous, fort de votre expérience dans le Grand Sud, il n'est pas facile de gérer cette immensité.
Merci, soyez bienvenus. Tout d'abord, j'adresse mes sincères salutations à toutes les auditrices et auditeurs de la chaîne 3. Votre question est pertinente et intéressante, dans la mesure où, comme vous l'avez bien souligné, l'espace est une affaire avant tout de volonté, d'expérience et de patience surtout. Très bien. La wilaya Dilizi, qui se caractérise par une superficie de 284 618 km², population estimée à 50 000 habitants. Certes, la wilaya Dilizi était un lieu de transit caravanier à partir des wilayas du Sud dans le cadre du commerce du troc. Mais depuis 1984, elle a connu de grands bouleversements sur le plan économique, social et culturel. Je m'explique, et ceci grâce aux efforts colossaux de l'État en matière d'investissement, notamment à partir de l'année 2000. Je donnerai un seul chiffre. À travers les programmes de soutien à la relance économique, le programme complémentaire de soutien à la croissance et à partir de 2007, le programme de développement des régions du Sud. Donc, pour les cinq années, 2005-2009, la wilaya Dilizi a bénéficié d'une enveloppe, disons, colossale qui avoisine 50 milliards de dinars, soit 5 000 milliards de centimes pour une population de 50 000 habitants. Là que je dois mettre en relief l'effort continu des pouvoirs publics en vue de rehausser et la mettre au diapason des wilayas du Nord. À ce titre, je me permets de donner quelques chiffres en matière des enveloppes de crédit. Là, comme je dois le souligner, vu l'immensité de la wilaya, 50% du budget alloué est consacré au secteur des travaux publics et des aéroports, des aérodromes. Donc ça démontre l'importance accordée par l'État au désenclavement de la wilaya. 50%, je répète, 50% de l'enveloppe est consacrée au développement des routes nationales, chemins de wilaya et chemins communaux, dont les linéaires avoisinent plus de 3000 km. Bien sûr, nous avons trois aéroports, dont deux aéroports internationaux, Jeannette et In Amenas. Bien sûr, un peu le bilan exhaustif enregistré à ce jour nous a permis un désenclavement progressif en matière de routes nationales, chemins de wilaya et chemins communaux, et aussi un désenclavement en matière de télécommunications. Là, je dois préciser que l'année, les années précédentes, la wilaya a bénéficié de 500 km de fibre optique qui a permis de désenclaver notamment la région de Jeannette par rapport à la wilaya du Nord, disons par rapport à la chef-lieu de wilaya. Donc depuis exactement deux années, nous sommes reliés à la, disons, au réseau national en matière de télécommunications. Donc, je disais que comme premier impact du projet d'investissement public a permis de désenclaver progressivement toutes les chefs de communes ainsi que les localités à travers, bien sûr, la réalisation de nouvelles routes d'entretien et de réhabilitation. Secondo, bien sûr, ça a permis de relier les chefs de communes au réseau national des télécoms ainsi que ça a permis aussi de désenclaver certaines localités à travers la téléphonie, disons, mobile. Ce qu'on a pu installer les trois dernières années, plus de 57 antennes de Mobilis et les autres partenaires. Deuxièmement, ce programme, c'est-à-dire colossal, a permis aussi la réalisation de plusieurs infrastructures de proximité en matière d'éducation, de formation, de santé et de jeunesse et sport. Pour une prise en charge quantitative et qualitative des besoins essentiels des populations. Donc ce programme conséquent aussi a permis de plusieurs dizaines de centaines, je peux dire, de logements sociaux et l'habitat rural qui a permis d'améliorer le cadre de vie des citoyens. Je voudrais aussi ajouter que ce cadre de vie a été amélioré grâce au projet initié dans le cadre de l'amélioration urbaine, en matière bien sûr d'éclairage, d'eau potable, l'assainissement, même le gaz de ville, à Illizy et prochainement à Inaménas et Jeannette. Cet appréciable niveau de vie a permis la création de nombreux emplois temporaires et permanents et ainsi à faire chuter le taux de chômage à 9,4%, qui est des résultats encourageants. Tout de même, il reste des contraintes. Vu l'immensité de la wilaya, vu l'éloignement des centres d'approvisionnement, notamment en matière de ciment, de fer, de briques, de gravier, et surtout en main-d'œuvre. Malheureusement, la main-d'œuvre locale est insuffisante. Insuffisante et non qualifiée. Pour ce faire, bien sûr, les portes des centres de formation sont ouvertes. Hein, que l'offre de formation est supérieure à la demande. Qui est une performance, c'est exceptionnel, disons. Donc, j'ai dit parallèlement, aux investissements publics initiés par l'État, en matière de projet, infrastructure de base surtout, voudra souligner, par ailleurs, des investissements initiés par rapport à la vocation de la wilaya. C'est une vocation industrielle au nord de la wilaya, à travers la valorisation des hydrocarbures, soit par son attrac ou à travers le partenariat, entreprise internationale, publique et privée. Et notre souci, disons notre vocation prochaine, c'est la valorisation des investissements touristiques au niveau de la zone d'expansion touristique de Jeannette, qui a une superficie d'à peu près 100 hectares aménageables pour un nombre de lits qui avoisine les 1000 lits. Et en plus, la vocation touristique de la wilaya, nous avons déjà commencé à mettre en valeur les localités secondaires pour un développement agricole durable. Donc un développement combiné et toutes les infrastructures liées à l'amélioration du cadre de vie en général.
Monsieur le Walid d'Illizy, Monsieur Boualem Tifour, vous avez parlé justement d'emploi et de situations exceptionnelles, à savoir plus d'offres que de demandes. Mais on a le nombre, comme vous le disiez, le nombre d'habitants à travers la wilaya d'Illizy s'élève environ à 50 000 habitants, sédentarisés depuis donc quelques années. Mais nous avons constaté que les palmeraies sont quelque peu abandonnées. Alors, quelles sont les mesures incitatives pour la relance de ce patrimoine?
J'ai souligné que la vocation de la wilaya se fait à travers trois axes. Pourquoi? La population locale, comme vous le devez savoir, c'est une population de pasteurs, d'éleveurs. Donc, c'est à travers les investissements de l'État, l'école, la santé, la formation, que les citoyens se sédentarisent progressivement. Donc, maintenant, une nouvelle vocation est née. Comment valoriser les atouts agricoles de la wilaya? Bien sûr, il y a la contribution de l'État à travers la mise en valeur agricole, c'est-à-dire la construction de forages, la distribution de plants fruitiers, plus les aides dans le cadre du FNDA. Surtout depuis 2008, nous avons un programme mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture qui consiste en ce que nous appelons communément les PPDRI, les projets de proximité, de développement rural intégré. Donc il y a le volet agricole, le volet hydro-agricole et tous les investissements qui gravitent autour du centre de vie, à savoir l'école, bien sûr, la mosquée, le centre de santé et tout ce qui est lié, disons, au mode de vie du citoyen.
Monsieur Louali, vous nous avez présenté cette immensité. Vous ne nous avez pas parlé de vos difficultés, parce que nous avons dit au départ que vous étiez fort d'expérience, dans la mesure où vous avez vécu longtemps dans le Sud. À propos de projets à caractère culturel, on sait que les Rsol sont en restauration, qu'il y a le Fort Charlet, et évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres projets?
Je voudrais revenir sur le patrimoine culturel, si vous permettez. Donc la wilaya d'Illizy se caractérise par des rêves exceptionnels. Représenté, comme vous l'avez souligné, par un musée à ciel ouvert, à savoir le parc national du Tassili, qui totalise plus de 80 000 km², marqué par des peintures et gravures rupestres, témoin d'une riche civilisation ancestrale. Secondo, ce patrimoine aussi se caractérise par des danses et chants représentant les us et coutumes traditionnels. À titre d'exemple, je peux citer la musique, enfin notamment le musique tindi et l'imzad, qui est un instrument propre aux régions du Sicile et du Ogar. En plus, nous avons un artisanat traditionnel très riche et diversifié qui est la preuve d'un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Et bien sûr, de nouvelles vocations culturelles se précisent, notamment dans le domaine des arts plastiques et de la poésie. Donc tous ces atouts sont un plus pour la wilaya en matière, bien sûr, de valorisation de tous les atouts naturels à travers pour ce qui est du tourisme et culturel pour ce qui est de ce patrimoine, enfin bien sûr, riche et diversifié. Pour ce faire, nous avons entamé la réalisation des infrastructures culturelles. Notamment, nous avons une maison de la culture qui est opérationnelle depuis presque 2 ans. Nous avons réalisé des centres culturels ainsi que des bibliothèques comme lieu d'expression, disons, de la culture locale. Je voudrais aussi souligner la contribution conséquente du ministère de la Culture à travers, bien sûr, des subventions, à travers, bien sûr, le financement des échanges culturels et surtout à travers, peut-être prochainement, pour ce qui est de la Sabiba, la fête locale, elle sera institutionnalisée comme fête locale et nous espérons, dans le futur, elle soit, disons, un patrimoine universel à l'image de l'île. Donc c'est ça notre ambition, c'est d'en faire, disons, un patrimoine culturel universel. Bien sûr, l'administration locale a aidé dans ce sens pour mettre en valeur ce patrimoine à travers l'agrément de plusieurs dizaines d'associations à caractère culturel et aussi à travers la dotation aux moyens budgétaires pour, bien sûr, aider les associations culturelles qui s'intéressent.
Merci pour ce tour d'horizon de cette immensité qui est la wilaya d'Illizi. Merci, Monsieur Louali. On vous souhaite beaucoup de courage.
J'en ai besoin. Non, je m'excuse. J'ai une riche expérience, plus de 20 années au Sud. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et ça m'a permis d'être plus sage encore, hein, et plus conséquent dans mes démarches. Et surtout, je pratique un dialogue de proximité.
Merci à Douanekli pour sa collaboration. Après le Grand Sud, direction le nord-ouest de l'Algérie, nous serons à Chlef. Et si vous êtes là, alors ce sera bien.
Mais I'm not afraid to die.